ministre a affirmé hier mercredi devant les députés nationaux que des progrès considérables ont été accomplis durant les 4 dernières années, et cela dans plusieurs domaines sur toute l'étendue du pays. Concernant notamment le social, le Premier ministre a indiqué que cette rubrique a bénéficié d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs congolais, soit près de 28% du budget. Matata Ponyo réagissait ainsi à la question orale du député national Mbindoulé Mitono. Comment analyser ce bilan dressé par le Premier ministre, c'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Grégoire Kironsongo, député national élu de Beni, cadre membre de l'opposition. Il est secrétaire général adjoint du RCD-KML, également membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Bonsoir, Honorable.
Bonsoir.
Professeur Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, professeur, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, nous l'espérons. C'est l'honorable Crispin Ngoï, député national et cadre du parti politique RUDEC. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Premier ministre a évalué hier, mercredi à l'Assemblée nationale, l'action du gouvernement au cours de 4 dernières années. Augustin Matata Ponyo a parlé des progrès accomplis dans plusieurs domaines sur l'ensemble du pays. Cette affirmation fait suite à la question orale lui adressée par le député national Mbindoulé Mitono. On écoute le Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans cet extrait choisi par Mimi Ngumba Mulongo.
Baisse considérable de l'incidence de la pauvreté, augmentation du pouvoir d'achat, bien que la création des emplois ait resté relativement insuffisante. Nous avons aussi permis, dans le cadre de cet objectif, de réaliser un accroissement impressionnant des taux de scolarisation, d'alphabétisation et d'achèvement. Mais il reste à améliorer la qualité de notre enseignement. Les taux bruts de scolarisation est passé, tenez bien, de 90,8% en 2010 à 107% en 2014. Nous avons aussi noté une baisse de la tendance de l'infection VIH et SIDA et de la prévalence de certaines maladies au cours de notre mandature. Nous avons aussi noté une amélioration du cadre de vie des ménages en matière de dessertes en électricité ainsi que d'eau potable, à l'assainissement du logement, mais aussi un progrès dans ces domaines.
Voilà, c'était le Premier ministre qui intervenait au micro de Mimi Ngumba Mulongo. Honorable Grégoire Kironsongo, vous êtes député national de l'opposition, élu de Beni, et secrétaire général adjoint du RCD-KML, également membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. 4 ans après, le bilan du Premier ministre, il est positif, négatif ou mitigé selon vous?
Ben, il est absolument négatif. Je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et j'adresse... j'adresse mes salutations aussi à mes co-débatteurs. Je crois que le bilan du Premier ministre, au bout de 4 ans d'exercice, il est largement négatif. Parce que son discours d'hier, c'est un discours qui est teinté d'autosatisfaction. Quand il vous parle de l'amélioration des conditions sociales, mais écoutez, moi je me demande s'il vit sur la même terre, il vit dans la même république que nous. Parce que quand il parle de l'augmentation du niveau de vie, du recul de la pauvreté, mais ça c'est quand même ahurissant. Comment on peut parler de la diminution de la pauvreté dans ce pays alors que tout le monde sait que le taux de chômage atteint des sommets jamais égalés? Comment on peut parler de l'amélioration des conditions de vie alors que l'accès à l'eau et à l'électricité, l'accès à l'eau et à l'électricité n'a même pas stagné, elle a plutôt diminué? Vous vivez à Kinshasa comme moi, vous savez qu'à Kinshasa il n'y a pas d'eau, il n'y a pratiquement pas d'électricité. Et que dire de l'intérieur? Donc je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas comment le Premier ministre peut parler de l'amélioration du cadre de vie et des conditions de sociales de la population. Ça, c'est vraiment de l'autosatisfaction et je m'inscris en faux contre ces affirmations.
Alors, mais vous avez suivi le Premier ministre dire notamment qu'il avait relevé les obstacles rencontrés dans la réalisation de son programme, contrairement aux prévisions arrêtées au départ, notamment le vote tardif de certaines lois importantes pour la réussite des réformes envisagées dans l'exécution
l'application du programme d'action du gouvernement. J'aimerais bien qu'on me dise quelle loi a été votée tardivement tant et si bien que les promesses du gouvernement n'ont pas pu être tenues. J'aimerais bien le savoir.
Alors, vous dites que vous vous demandez si le Premier ministre vit sur quelle planète, mais lui, il a évoqué des réalisations du gouvernement en dépit des contraintes, notamment quand il fait allusion à la construction des routes à travers le pays, l'amélioration du secteur de transport grâce à l'acquisition des nouveaux bus, des avions, des locomotives, la réhabilitation de la flotte fluviale, la construction des écoles, la bancarisation des salaires des agents de l'État. Là, pour ne citer que ça, honorable Kiro, vous également, vous vivez sur quelle planète?
Je vis sur la planète Terre et je vis en RDC à l'aéroport. Quand on nous parle des réalisations dont vous venez de parler là, parlons des routes. Combien de kilomètres de routes ont été construites? Moi, je concède qu'en ce qui concerne la voirie urbaine de certaines villes, il y a eu des progrès notables. Moi, je suis passé par Goma il n'y a pas longtemps. J'ai constaté effectivement qu'il y a plein de routes qui ont été construites et asphaltées. Mais je dois aussi relever que la plupart de ces routes-là ne sont pas l'œuvre du gouvernement, mais des partenaires extérieurs. Il y a la MONUSCO, il y a l'Union européenne, etc., etc. Donc, c'est cela. En ce qui concerne la flotte fluviale, il a parlé de l'ITB Kokolo, mais à l'aéroport, soyons sérieux. L'ITB Kokolo, c'est un bateau cinquantenaire. C'est un bateau qui a été acquis quand moi j'étais même pas encore né. Donc on ne peut pas se prévaloir de l'avoir retapé alors qu'il s'agit d'un bateau cinquantenaire. Quant à la bancarisation, je veux bien, c'était une bonne mesure la bancarisation. Mais avec les erreurs du gouvernement, la BIAC est arrivée à cette situation de dégringolade. Et moi, j'aimerais bien savoir comment les fonctionnaires qui sont payés par la BIAC vont faire pour rentrer en possession de leur salaire. Et vous savez que la situation de la BIAC, c'est une situation créée artificiellement par le gouvernement et qui a une incidence sur tout le système financier, tout le système monétaire, tout le système banquier national. Parce que avec un effet domino, comme vous le savez, ce qui s'est passé à la BIAC a une incidence sur toutes les autres banques, parce que maintenant la tendance c'est au retrait de tous les dépôts.
Alors le Premier ministre a également dit, honorable Kiro, que le social, la rubrique sociale a bénéficié d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs congolais, soit près de 28% du budget. Vous pensez que cela est également ne représente rien?
Voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas qu'on nous dise autant de milliards. Ce qui compte, c'est les réalisations effectives. Et en l'espèce, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé sur le plan social. Quant au budget, revenons-y. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi le budget de l'État, il stagne. On va nous dire qu'il y a eu une baisse considérable du cours des matières premières sur le marché international. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté, mais cette difficulté-là, elle ne peut pas tout justifier. Moi, je crois que la stagnation du budget de l'État, à un niveau relativement bas, est due au fait qu'il n'y a pas d'innovation de la part du gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement continue à tirer sur les régies financières. Il n'y a que de là que le gouvernement tire ses ressources. C'est pas normal parce que il y a des ressources naturelles que nous sommes incapables d'exploiter. Comment expliquer que le Rwanda parvient à exploiter déjà son gaz méthane et nous ne sommes pas capables? Comment expliquer que l'Ouganda exporte déjà son pétrole, nous ne sommes pas capables? Comment expliquer que l'Angola exploite son pétrole, mais nous ne sommes pas capables? Bien au contraire, ces pays que je viens de citer, les pays limitrophes, ils sont occupés à siphonner nos propres richesses naturelles parce que nous ne sommes pas capables de les exploiter. Donc le gouvernement a failli dans sa mission de créer des richesses.
Alors le Premier ministre a également parlé de la baisse considérable de l'incidence de la pauvreté, la diminution de la malnutrition aiguë, l'augmentation du pouvoir d'achat, bien que la création d'emplois est restée relativement insuffisante, a-t-il dit, honorable Kiro.
L'augmentation du pouvoir d'achat, moi je veux bien qu'on en parle une fois. Quand on parle de l'augmentation du pouvoir d'achat, on se base sur quels critères? Voilà pourquoi je disais tantôt, je me posais la question de savoir sur quelle planète vit le Premier ministre. Est-ce que vous avez l'impression que le citoyen lambda de RDC a plus de possibilités d'achat des biens? Moi, je n'ai pas cette impression-là. En ce qui concerne le chômage, écoutez, je rappelle quand même que chaque année, les centaines d'universités qu'il y a en RDC déversent sur le marché de l'emploi plusieurs milliers de jeunes gens qui ne savent pas trouver de l'emploi. Ils sont au chômage. Moi, j'aimerais bien savoir, quand on nous parle de la lutte contre le chômage, bien sûr qu'il relativise parce qu'il dit qu'il n'a pas assez fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre le chômage? J'aimerais bien le savoir. Quels sont ces jeunes-là qui ont obtenu de l'emploi grâce au gouvernement? Bien au contraire, moi, je constate qu'il y a même un phénomène de désinvestissement du fait de la surtaxation. Il y a même des entreprises qui ferment. Vous savez bien que sous le règne, disons pendant le règne de l'actuel gouvernement, il y a déjà Orgamand qui a fermé ici à Kinshasa. Vous savez qu'il y a BAT qui a fermé. Donc c'est autant d'emplois de perdus. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des progrès dans ce domaine.
Merci honorable Kiro. Nous vous avions annoncé la participation de l'honorable Crispin Ngoï, député national et cadre du parti politique RUDEC, communicateur de la majorité présidentielle. Il est injoignable, nous ne parvenons pas à l'atteindre, mais à sa place, nous avons plutôt l'honorable Patrick Thierry Kakwata. Bonsoir honorable, vous nous suivez, vous êtes en ligne.
Bonsoir, comment vous allez?
Nous allons bien, merci d'avoir accepté notre invitation, puisqu'on vous a vraiment pris à pied levé. Merci honorable une fois de plus. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et président des mouvements des réformateurs libéraux, parti de la majorité présidentielle. Vous avez suivi l'honorable Kiro, qui estime, lui, que le bilan du Premier ministre, 4 ans après, est absolument négatif, selon ses propres termes. Quel est votre bilan, vous, honorable Kakwata?
Vous devez savoir que c'est tout à fait normal que l'honorable Kiro puisse juger ainsi, d'autant plus qu'appartenant du côté de l'opposition, et moi je dis toujours l'opposition s'oppose à tout ce que la majorité est en train de se faire, mais il manque la reconnaissance au sein de l'opposition. Parce que quand vous vous opposez et que quelque chose se fait selon tel que vous le vouliez, il faudrait savoir aussi dire oh, que nous nous sommes opposés parce que l'opposition et la majorité, c'est pour le bien-être de notre dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Et quand vous voyez que quelque chose à laquelle vous êtes opposé se réalise, il faut savoir aussi dire merci. Ce pays a été détruit pendant 32 ans dans tous ses compartiments. Donc c'est comme si c'est un pays que nous avons trouvé à moins 72 ou à moins 90. Mais à ce jour, nous arrivons, je peux même aller plus loin, nous arrivons à 10 ou à 15. Donc il faudrait d'abord reconnaître les efforts loués. Nous avons quitté moins 90, moins 72, nous sommes maintenant à 10. Nous continuons sur l'échelle en train de monter. Alors dire que le bilan est négatif, moi je ne dirais pas que le bilan est négatif. Je dirais qu'on n'a pas encore atteint le seuil que nous voulons atteindre et que le panier de la ménagère, le social de la population soit vraiment au rendez-vous tel qu'il a été dit, mais nous sommes dans un chemin et dans ce chemin-là, il y a des avancées positives et significatives pour lesquelles l'honorable devait quand même reconnaître que notre opposition, servant de lampe témoin vis-à-vis de la majorité, nous les avons coincés et c'est pour cela que cette majorité travaille. Moi, j'aimerais que l'honorable puisse le dire ainsi, que leur opposition a fait que la majorité puisse travailler, que de baisser les bras. Il y a longtemps, d'ailleurs très longtemps que notre ciel était couronné ou le drapeau congolais flottait dans le ciel congolais. Il y a très longtemps, mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire que c'était quand la venue de Kabila qu'on a fermé les lignes comparées, la ligne comparée, aérienne nationale. Non, nous l'avons hérité ce pays sans ligne, mais tandis que quand moi je naissais, plus, au plus bas de mon âge, j'avais un DC-10 Air Zaïre qui faisait la fierté de ce pays, mais il s'est parti où? Aujourd'hui, nous avons au moins Congo Airways qui est arrivé et qui fait déjà ses preuves et tout, et nous sommes quand même respectés au travers le monde. Donc que l'honorable puisse changer sa façon de parler, qu'il dise au moins que notre opposition a permis à la majorité de travailler et nous demandons à la majorité de travailler encore plus que ça parce que nous allons nous opposer quand nous voyons qu'ils sont en train de déraper. Parce que pour nous, notre conception, l'opposition sert de lampe témoin quand nous voulons déraper et nous remettre sur la route. Et comme on l'appelle du nom opposition, c'est comme ça qu'ils sont en train de s'opposer à tout ce que la majorité se fait, mais que ça soit une opposition constructive.
Honorable Kakwata, le Premier ministre affirme avoir alloué à la rubrique sociale 28% du budget. Pensez-vous que cela est réaliste pour un pays, continent comme la RDC?
Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous venons de moins 90, moins 72, et qu'il a loué 28% du budget au social. C'est déjà un pas. Parce que regardez même notre budget dans le temps. Nous avons un budget modique, 300 000 francs 300 000 francs et tout. Mais aujourd'hui, nous avons même 3 millions, je crois. Mais aujourd'hui, nous avons atteint même le 9 milliards. 7 milliards, 9 milliards. Nous sommes en train de partir parce que c'est tellement minime, comme vous-même vous dites, que par rapport à notre pays, à la taille d'un continent. C'est minime. Mais il y a un pas, il y a cette volonté. C'est quand on dit toujours, quand vous voulez faire 100 km, vous devez commencer par 1. Vous ne ferez jamais 100 km sans passer par 1. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire, et d'ailleurs même ceux-là qui viendront plus tard viendront trouver déjà que les bases sont déjà là, solides, et eux continueront à aller jusqu'à 2000, à 3000, mais nous au moins on a fait un pas, on a quitté un, nous sommes en train d'aller à 200, 300, jusqu'à ce qu'on atteindra le seuil voulu de la population. Nous sommes conscients qu'à ce jour, nous n'avons pas encore répondu à 100% au social de la population. Ça nous sommes conscients. Mais au moins il y a déjà un pas dans le social de la population. Dans le panier de la ménagère, il y a déjà un pas.
Honorable Kakwata, il y a Chims Moïse Chimoussa qui dit, si le Premier ministre peut parler de quelques innovations, oui, mais il ne doit pas exagérer, parce qu'en 4 ans, il pouvait donner plus. S'il faut parler d'échec, en tout cas, je prendrai le cas de l'emploi, c'est un véritable échec, dit-il.
C'est comme tout à l'heure, vous avez posé la question, soi-disant, que, est-ce qu'on était sur quelle planète, on ne vivait pas ici pour voir la réalité. Vous devez comprendre qu'il y a des causes exogènes et endogènes qui ont fait que tout ce qui a été prévu dans le programme d'action du gouvernement ne se sont pas réalisés à 100% ou bien à grande échelle, parce que nous avons des causes endogènes et exogènes. Et les causes exogènes, vous savez que moi, je l'ai toujours dit, et à chaque fois que vous me donnez l'occasion, merci encore que vous venez de me donner l'occasion aujourd'hui, j'ai toujours répété de le dire, que notre pays, nous Congolais, nous souffrons et nous sommes victimes de nos propres ressources. Quand je parle de ressources, je vois et les ressources naturelles et les ressources humaines. Nous souffrons de cela. Et nous sommes convoités. Combien de guerres il y en a eu? Si bien que tout ce qui était prévu pour tel développement, tel ceci, a été dévié pour l'effort de guerre. Ce sont des causes exogènes imprévues qui nous sont arrivées. Alors, si le Premier ministre vous a dit, bon, voilà les réalisations, et toutes ces réalisations, nous les avons faites pendant la guerre. Toutes ces réalisations, nous les avons faites pendant qu'il y ait guerre. On n'a pas demandé qu'il y ait la paix pour que nous puissions conduire ces réalisations.
Donc, merci.
Pourquoi il faut comprendre que gouverner, c'est prévoir, et ils ont besoin de travailler.
Merci, honorable Kakwata. Professeur Alphonse Maïndo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein, selon que l'on est dans l'opposition, dans la majorité. Quelle est votre analyse par rapport au bilan présenté par le Premier ministre 4 ans après? Professeur Maïndo? Voilà, nous venons de perdre le professeur Alphonse Maïndo. Honorable Kiro, vous avez suivi l'honorable Kakwata dire que le gouffre était trop grand. On devait partir de quelque part et le pays est en train de progresser.
Le Premier ministre parle de réalisation de ses objectifs à 70%. Et là, je m'insurge en faux contre cette manière de voir. On ne peut pas dire que nous avons que son bilan est positif à 70%. Parce que quand il parle de route, il faut qu'il nous dise combien de kilomètres de route il a pu construire sur ce qu'il avait promis. Il nous avait promis des chemins de fer. Il nous avait promis de lutter contre le chômage. Il avait promis toute une batterie de mesures qui ont été réalisés pas à 70%. Donc moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a quand même certaines réalisations qui ont été faites, mais dire qu'il les a réalisées à 70%, je dis non, il ne les a même pas réalisées à 50%. Voilà pourquoi je dis que le bilan est largement négatif. Et quand on dit que nous sommes partis de loin de 32 ans de mauvaise gouvernance, c'est tout à fait vrai. Mais c'est la raison pour laquelle, c'est parce que le pays était bas que nous avons justement besoin de dirigeants capables de relever le défi. Donc on peut pas être là. On est là depuis combien d'années, je crois 15 ans de pouvoir, et puis on dit voilà, on est parti de trop loin, le pays a été mal géré pendant 32 ans. Ah non. Et quand on parle de guerre, moi je veux bien savoir, je voudrais bien savoir une chose. Quand on nous parle de guerre, mais écoutez, le rôle principal des gouvernants, c'est d'assurer la sécurité. Qu'est-ce qui fait que des petits pays peuvent continuer à nous enquiquiner? Ça veut dire que nous sommes incapables d'organiser nos forces de sécurité de manière à ce que nous puissions faire échec à toute tentative d'incursion sur notre territoire. Je suivais encore sur vos antennes il y a 48 heures que l'armée sud-soudanaise est entrée à Arou et y a planté un drapeau. Mais c'est quand même ahurissant. J'apprends de, ce matin ou hier encore que l'armée rwandaise est entrée et a fait des incursions au Nord-Kivu. Mais écoutez, écoutez, on nous parle de la réforme de l'armée, mais notre armée doit être capable, surtout qu'elle est aidée en cela par la MONUSCO, doit être capable d'assurer la sécurité. Donc, écoutez, nous sommes un pays riche, immensément riche, voilà pourquoi nous suscitons la convoitise et des voisins et des puissances internationales. Voilà pourquoi nous devons nous organiser de manière à ce que nous puissions être capables de faire échec à toutes ces velléités.
Professeur Mahindo, vous êtes en ligne?
Oui, oui, je suis maintenant à l'université.
Voilà, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo. Professeur, je disais tout à l'heure qu'en suivant les différents interlocuteurs, c'est un verre à moitié plein et à moitié vide selon que l'on est dans l'opposition ou dans la majorité. Quelle est votre analyse à vous? Professeur? Voilà, nous avons quelques soucis avec la ligne du professeur Mahindo. Nous allons prendre l'honorable Crispin Goy. Il vient de faire son entrée dans cette émission. Nous remercions beaucoup l'honorable Patrick Thierry Kakwata, député national de la majorité présidentielle et président des mouvements des réformateurs libéraux, qui a accepté de faire le relais en attendant que l'honorable arrive. Honorable, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Voilà, vous aviez déjà suivi une partie du débat, l'honorable Kiro, qui pense que le premier, il y a certaines choses qui ont été faites, mais le premier ministre ne peut pas prétendre avoir réussi à 70%.
Merci beaucoup. Et d'abord, je vais commencer par remercier mon collègue Kakwata, qui a pu intervenir avant que je n'arrive. Ce qui est important d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est une question orale avec débat, ce qui est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que le Premier ministre, de temps en temps, qu'il puisse s'habituer à ce genre d'exercice, à passer devant les élus du peuple pour donner l'évolution de son programme. La question telle qu'elle a été posée, il fallait qu'on puisse savoir où en était-il par rapport aux promesses faites depuis 2012, d'autant plus que nous sommes en 2016. Le programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale par lui-même et approuvé par l'Assemblée allait de 2012 à 2014. Alors, le Premier ministre a expliqué les tout clairement. Il a expliqué les tout clairement, de telle manière que des zones qui semblaient être sombres ont été questionné par les honorables députés. C'est ainsi qu'il y a eu 101 interventions pour que le Premier ministre puisse répondre. Mais le Premier ministre a été modeste. Il a été clair, il a dit tout ce qu'il avait promis, il a pu réaliser à peu près à 50%. Et il a donné les raisons qui ont fait qu'il puisse réaliser cela à 50%. Aujourd'hui, si nous devons parler d'un bilan positif, négatif, neutre. Non, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas parler de ça aujourd'hui? Puisque le Premier ministre a eu des questions, il leur reviendra. Et quand il reviendra, c'est à ce moment-là qu'il va donner les explications et c'est là qu'on pourra voir qu'est-ce que le Premier ministre a fait.
Et par rapport, vous êtes un élu du peuple, honorable Crispin Goy, par rapport aux réalités que vivent vos électeurs et par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre, vous voyez vraiment qu'il y a fusion, qu'il y a cohésion entre les deux faits, la réalité, ce qu'a dit le Premier ministre.
Vous savez, mon cher ami, et je vais vous dire, quand quelqu'un est affamé, et il a besoin de beaucoup manger en une fois, mais celui qui doit lui donner à manger peut-être ne dispose pas tout ce qu'il faut pour lui donner. Le Premier ministre a parlé, le peuple effectivement a besoin
a beaucoup de beaucoup d'attentes.
Oui, le peuple veut vivre l'excellence, le peuple veut vivre la meilleure vie, mais hélas, cela ne pourra pas venir en une fois. Ça vient progressivement. C'est ainsi que le Premier ministre, vous l'avez entendu dire, les montants qu'il a investis dans le social. Bon, c'est tout à fait normal, puisque dans ce pays, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas des compagnies de transport. Et l'achat de bus qu'on a acheté, ça pouvait nécessiter suffisamment de moyens. Et si nous allons dans les écoles, ça pouvait nécessiter aussi beaucoup de moyens. Bien sûr que nous étions très bas, très 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 bas, Alors, lui, il essaye, il a tout fait, il essaye de remonter. Remonter, bien sûr, que l'effort à fournir est très grand. Il essaye de remonter pour que le peuple congolais puisse se retrouver du bonheur. Moi, je ne vais pas dire aujourd'hui que le peuple congolais s'est réjoui, puisque dans les 4 ans, il ne pouvait pas sortir le pays de ce marasme qui était là. Mais il se bat. Il se bat, à mon avis. Il se bat, il continue à se battre, et jusqu'à ce que le bien-être pourra être vendu.
Nous allons prendre pour vous, honorable Crispin Ngoyi, cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Professeur Ignace Nala, depuis Kolwezi, au Lualaba, je pense que c'est un discours beaucoup plus triomphaliste qui ne traduit pas l'humilité dans le chef du Premier ministre. En effet, la rareté d'emploi ne rime pas avec l'accroissement du pouvoir d'achat et la diminution de la pauvreté. Les chiffres ne traduisent pas souvent le social ou la vie réelle du peuple. Et il faut reconnaître aussi que Kinshasa n'est pas un très bon tableau pour lire la vie des Congolais.
J'ajoute, honorable Crispin Ngoyi, cette réaction de Kilikumbi Lusumba Sumba qui dit c'est un bilan politicien et non celui d'un technocrate comme a été présenté le Premier ministre à son entrée en fonction. C'est tout simplement de l'autosatisfaction. À ce jour, le citoyen congolais est sous pauvre avec un revenu d'$1,40 par jour. Est-ce qu'il faut parler des avancées dans le domaine de l'éducation lorsque 1000 élèves sont inscrits au début de l'année et que 500 seulement arrivent jusqu'à la fin?
Merci beaucoup. Je vais commencer par le premier. Vous savez que dans ce genre de choses, parler de triomphalisme, c'est trop dire. Je crois qu'il faut parler beaucoup plus de réalisme. Parler de réalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir d'un point A vers un point B. Moi, je pense, je ne défends pas le Premier ministre, je pense, le Premier ministre qui avait présenté son bilan, il avait présenté son budget d'abord, il avait présenté son programme au début. Vous allez vous rendre compte que, effectivement, la situation du pays en 2012 n'est pas la même en 2016. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais la satisfaction populaire n'est pas encore là, puisque les trous étaient profonds. Les trous étant très 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 profonds, on ne pourra pas trouver immédiatement les satisfactions aujourd'hui. Moi, je pense que le Premier ministre, à l'allure où il est en train de travailler, s'il continue encore avec beaucoup plus de rigueur, je m'imagine qu'on pourra sortir du pays, de ce marasme. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas déclarer que le bilan est largement négatif, largement positif ou largement neutre. Non. Je crois que tout ce qu'on pourra faire, c'est encourager davantage le Premier ministre qui est là, qu'il puisse continuer encore à fournir beaucoup d'efforts pour aller de l'avant. Et surtout aussi sécuriser notre pays pour que tous les moyens qui ont été destinés à des guerres ne puissent plus y être. À ce moment-là, le pays pourra décoller.
Honorable Grégoire Kirou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kamanga.
Freddy Sokenge, ville de Kananga, Kasaï centrale. Loin d'être pessimiste et tendancieux, il est juste de reconnaître que le bilan du gouvernement Matata après 4 ans à la tête du pays mérite considération, dans la mesure où nul n'est censé ignorer dans quel contexte il a été investi. D'une part, il fallait calmer une forte crise politique dans le pays, et d'autre part, il fallait trouver des solutions face à l'épineuse question de l'insécurité qui faisait rage dans les pays y égard aux guerres d'agression, notamment à l'Est avec les M23. Tout en déplorant le faible impact de la croissance économique sur le vécu quotidien des citoyens, je pense que le gouvernement a une occasion en or de sortir la tête de l'eau en offrant à la nation des élections crédibles dans les délais constitutionnels, car pour un pays considéré comme un bon élève auprès des institutions de Bretton Woods et qui a à l'émergence d'ici 2030, manquer à ces rendez-vous cruciaux noircirait l'ensemble du bilan et l'action gouvernementale.
Honorable Kirou,
je suis tout à fait d'accord avec la dernière assertion quand il dit que si le gouvernement veut sortir de la tête de l'eau, il faut qu'il soit capable d'organiser les élections à terre échue. Parce que nous constatons ceci, nous constatons que depuis 2012, il y a des lois de finances qui sont votées et ces budgets prévoient pendant les 5 années que nous venons de passer, l'honorable Crispin Ngoyi et moi, Il y a chaque fois quelque chose comme 230 ou 250 millions qui sont prévus pour l'organisation des élections futures. Mais ces fonds ne sont jamais mis à disposition de la CENI. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous trouvons dans une situation où la CENI doit avoir quelque chose comme 50 ou 60 millions de dollars à peine. Ça, c'est vraiment anormal. Donc, tout a été fait pour effectivement que les élections ne soient pas organisées. Quant à ce qui concerne le bilan du Premier ministre dont l'auditeur dit qu'il est à considérer à sa juste valeur, je crois que le Premier ministre a lui-même élaboré un programme d'action sur 5 ans. Il a lui-même élaboré un programme d'action qu'il est venu présenter au gouvernement. Je suis même parmi ceux qui avaient estimé à l'occasion du débat général en 2012, en mai 2012, que c'était un peu trop optimiste et qu'il aurait du mal à réaliser cela. Parce que moi, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous êtes sûr que vous serez capable de nous construire 30 000 logements sociaux? Est-ce que vous en serez capable? Il a dit, on en sera capable. Vous serez capable de nous construire autant de milliers de kilomètres de chemin de fer? Il a dit, nous en serons capables. Donc voilà, il faut qu'il assume. C'est un programme qu'il a lui-même élaboré avec ses services, en l'absence de nous députés, en l'absence de l'opposition. Il a fait ça avec ses services, il doit assumer.
Alors, compte tenu des réalités, ne faudrait-il pas dire comme l'honorable Crispin Goy qu'il a été réaliste?
Réaliste, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Le Premier ministre se couvre de glorioles et d'autosatisfaction quand il parle de 70% de réalisation, alors que tout le monde, je suis sûr que tous les intervenants à votre émission, je suis sûr que le public, si vous faites passer un micro-baladeur partout, vous avez des correspondants à Radio Capi, tout le monde va vous dire que la population est très 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 mécontente de l'action du gouvernement.
Alors, vous avez quand même reconnu, honorable Grégoire Quirot, qu'il y a des choses qui ont été faites, même s'il reste beaucoup à faire. Est-ce que vous pouvez parler de ces choses qui ont été faites?
Les choses qui ont été faites. J'ai parlé tantôt de des voiries urbaines dans certaines villes, même si j'ai mis un bémol à cela à propos de Goma en disant que l'essentiel de la voirie a été faite par la MONUSCO et par l'Union Européenne. Mais il y a aussi la part du gouvernement. Il y a des villes comme Matadi, où j'ai été. Il y a des villes comme, je crois, Kanangaou, Mbujimaï, je ne sais plus très bien. En tout cas, il y a des endroits où la voirie urbaine a été faite. Mais ce qu'on constate en ce qui concerne les infrastructures, c'est que non seulement elles sont largement insuffisantes, mais encore qu'elles ne permettent pas une intégration. Alors que quand on décide de faire des routes, ça doit être en premier lieu, pour permettre l'intégration nationale, ça veut dire pour permettre l'accessibilité de toutes les capitales provinciales, de toutes les provinces entre elles. Cela n'a pas été fait, donc on fait des infrastructures à Kindu, on construit une route à Kindu qui va se terminer dans la forêt équatoriale sans déboucher sur rien du tout, et ça c'est pas normal.
Professeur Mahindo, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez?
Oui, je suis maintenant en ligne, oui.
Voilà. Professeur, quel est votre bilan et quelle est votre analyse du bilan dressé par le Premier ministre?
Bien, merci beaucoup. D'abord, je suis désolé à cause de ce problème de réseau qui nous a empêchés de participer, effectivement. Alors, je pense que on peut dire une première chose, c'est qu'il y a eu quand même des changements qui ont été obtenus quand même avec le gouvernement depuis 4 ans. Des efforts ont été faits dans certains endroits, dans certains secteurs, et en particulier dans le secteur monétaire, avec une certaine stabilisation, et au niveau de grandes variables macroéconomiques, il y a des efforts qui ont été faits. Alors, mais ceci dit, il reste quand même pas mal de choses à faire, parce que lorsqu'on parle d'une action sociale très forte qui aurait pris une bonne partie du budget national, on peut se demander, cette action sociale-là, c'est en direction de qui? Parce que quand on voit, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à l'électricité, en termes d'accès aux soins de santé, pour les gens qui vivent au quotidien, c'est un sérieux problème, y compris dans les villes où les gens n'ont pas véritablement accès. Le taux de couverture en eau potable est très limité. Et l'école, si on parle d'école, mais il y a toujours des parents qui continuent à payer les études, les frais des titres pour les enfants, la prime et tout ça, et qui se lamentent. Et beaucoup d'enfants n'arrivent pas à tenir l'année à cause de cette affaire-là. Alors, mais ceci nous amène, si on veut expliquer ça, on peut comprendre que, pour une raison tout à fait politique et simple,
c'est que le gouvernement n'a pas assez de moyens. Quand vous avez un budget de 8 milliards, et qui est pour une bonne part, si vous voulez, ça vient de l'aide internationale, on ne peut pas espérer beaucoup de choses dans ces pays où tout était presque en effet. Alors, ceci dit, je voudrais quand même souligner aussi que si on se réfère à la théorie de l'action publique, on pourrait dire avec Yves Surel ou à Pierre Muller, même Charles Lindblom, l'action publique dans les sociétés modernes différenciées, c'est toujours une action à la marge. Voyez-vous, l'action publique ne fait jamais véritablement au cœur pour transformer des grandes choses. C'est des petites choses, en fait, qui sont faites. Puisque les contraintes de l'État sont multiples. Les actions publiques qui avaient été menées avant, auparavant, sont là comme des chefs de contraintes qui constituent une base de départ. Donc on ne peut pas ignorer tout ça. Voilà. Si je pouvais résumer ça, je dirais que, en fait, si on se réfère à ça, le présent est toujours hypothéqué par les tendances lourdes qui sont héritées du passé et qui, personne en réalité ne peut maîtriser ça. Et ceci dit, l'exercice du Premier ministre d'hier, c'est un exercice qui rappelle bien que le travail politique, c'est d'abord un travail sur les représentations du réel. Et c'est moins un travail sur le réel lui-même. Donc, à défaut, donner du pain aux gens, à défaut de repeindre une maison en bleu, on va dire non, ce que vous voyez là, c'est pas du noir, c'est du bleu. Donc, on va travailler sur les perceptions des gens de la réalité pour que ça change leur manière de voir les choses, comme on ne peut pas changer les choses en question.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Monsieur Ngombo Augustin, j'interviens à partir de la ville-province de Kinshasa. Le bilan du Premier ministre reste, à mon avis, très très mitigé. Si l'honnêteté scientifique m'oblige quand même à reconnaître quelques actions disparates dans certains domaines de la vie nationale, mais de l'ensemble, beaucoup reste encore à faire. Le Premier ministre parle de la baisse de l'incidence de la pauvreté, de la malnutrition et de la hausse du pouvoir d'achat. Mais comment peut-il expliquer le départ massif de la plupart des Congolais dans les pays limitrophes en quête de conditions de vie meilleures? Cela n'est-il pas un paradoxe? Je crois que le Premier ministre a tout intérêt à manipuler ses statistiques avec beaucoup plus de prudence. Il doit s'interroger sur la source des données qui lui sont fournies. Dans sa réflexion, le Premier ministre doit aussi se demander si ces échantillons sont représentatifs avant toute extrapolation, car sur le terrain dans les milieux reculés, c'est comparable au jour et la nuit.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Venance à Messi Malonga qui nous écrit du territoire de Pugna au Maniema qui dit « Je pense que le Premier ministre est resté dans sa routine, rien de nouveau dans son bilan. On s'attendait à ce qu'il nous présente notamment les taux d'insécurité et meurtre sur l'ensemble du pays, le taux du niveau de financement du processus électoral, le niveau du respect de la Constitution et le taux des violations des droits civiques, politiques, économiques et des droits humains. » Professeur.
Oui, alors, merci bien. Je pense que il faut comprendre, je comprends tout à fait les préoccupations de deux intervenants avec leur réaction, que je partage tout à fait. Quand on se quitte dans l'arrière-pays, on n'est même pas dans l'arrière-pays, y compris à Kinshasa. D'ailleurs, quand on va dans certains quartiers, on est frappé, choqué par la misère qu'on voit, qui côtoie les gens au quotidien. Les gens qui n'ont pas de quoi manger ou qui vivent avec l'insalubrité qui frise, si vous voulez, l'indignité, voilà, pour les gens. Alors, dans nombre d'endroits, il n'y a pas de route. Le fait agricole n'existe pas. Si vous arrivez dans une ville comme Kisangani, vous ne trouvez pas de voie. Si vous voulez la voirie, elle n'existe pas. Vous, on est même les principales artères de la ville, comme les boulevards du 30 juin, le boulevard Lumumba, sont abandonnés à donc on a des sérieux problèmes. L'électricité, c'est des délestages systématiques. Il y a des sérieux problèmes par rapport à ce que l'État devrait faire, mais qui ne se fait pas. Et quand on voit le pouvoir d'achat, on veut, je veux bien, qu'est-ce qui change dans la vie des gens? C'est le pouvoir d'achat qui devrait changer. Or, quand on regarde les salaires des fonctionnaires aujourd'hui, les fonctionnaires gagnent combien pour ceux qui sont dans les salariés? Ils gagnent moins que le SMIC, moins que le salaire minimum légal. Il y a des gens qui gagnent encore 40, 50 000 francs congolais chaque mois. Alors, c'est pas avec ça que la situation de vie va changer. Quand on vit dans une ville et qu'on doit payer un loyer pour 50, 40 dollars, comment on ferait? Donc, voilà, ça, c'est des vraies questions.
Merci.
Donc, les statistiques qu'on a là en termes de richesse globale qui a augmenté, trompe souvent parce que qu'est-ce que ça représente? Il y a une bonne partie de cette richesse qui est répartie entre les investisseurs ou qui est rapatriée à l'étranger. Et donc, bon, les retombées sur le plan concret des Congolais ne sont pas visibles. Il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que quand on voit d'autres sources d'informations, on se rend compte que le Congolais, il a moins de 2 dollars pour vivre par jour. C'est pas avec moins de 2 dollars, 1 point quelque chose, 1 point 20 ou 40 selon les données. Et donc, c'est pas avec ça qu'on peut dire qu'on a réduit la pauvreté.
Merci, professeur.
On est encore loin, du coup.
Merci, professeur. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Honorable Kiro, il y a Venance Amissi Malonga de Pugna au Maniema qui a évoqué la question des droits civiques et des droits humains, la répression des opposants par rapport au bilan politique.
Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique la situation des droits de l'homme dans ce pays. Il y a une restriction des libertés fondamentales que vous ne pouvez même pas imaginer. Des gens comme Jean-Louis Ernest Kiaviro, des gens comme les opposants comme Jean-Claude Muyambo, des gens de la société civile comme Christopher Ngoï. Il y a même une jeune fille, une étudiante de Lucha de Goma qui a été arrêtée, une étudiante de 22 ans. Mais écoutez, ce sont des choses, c'est catastrophique. Nous sommes en face d'un gouvernement qui met plus l'accent sur les infractions à caractère politique, genre outrage au chef de l'État, incitation à ceci ou à cela, alors qu'il y a des infractions réelles qui ne sont pas réprimées, l'enrichissement sans cause, les détournements, etc. Donc du côté des droits de l'homme, en tout cas, nous avons le gouvernement a vraiment regressé par rapport à ce qu'il y avait avant lui. Donc le Premier ministre, il nous avait donné des objectifs pour 2016 sur ces 5 objectifs. Je crois qu'il n'y a aucun qui a été atteint. Il n'y a aucun. Si vous voulez, je peux vous lire ces objectifs-là. Je peux vous les citer.
Bon, citez-en quelques-uns parce que l'émission va toucher à sa fin dans moins de 4 minutes.
Il paraît de consolider le cadre macroéconomique avec le dollar qui est aujourd'hui à 980 000. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons qu'il a échoué. Il avait les réformes institutionnelles avec la lutte contre la corruption, etc., etc., dans le civil comme dans le militaire, etc. Il n'a pas réussi. Il avait parlé de la construction, la modernisation des infrastructures, etc. Je vous ai démontré tantôt que il a presque rien fait. Donc,
alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que le Premier ministre peut faire pour que la situation des Congolais s'améliore?
Tout ce qu'il lui reste à faire, parce qu'il est fait un mandat, c'est de faire tout ce qu'il est encore possible de faire pour trouver les fonds nécessaires pour organiser les élections afin que nous passions à autre chose.
Honorable Crispin Ngoï, un mot également sur la répression. On accuse le gouvernement d'être répressif, de ne pas respecter les droits humains, les droits des opposants.
Merci beaucoup, mais je crois que la liberté n'est pas le libertinage. Non, on ne va pas quand même laisser dans le pays n'importe qui faire de n'importe quoi. Au contraire, c'est le peuple congolais qui va en périr. Moi, je pense que la question qui a été posée, la question orale avec débat, c'était de montrer au ministre qu'est-ce qu'il a fait par rapport à son programme. Donc, il n'a pas été question d'entrer dans des détails pour voir qui est qui a fait quoi. Il ne pouvait pas répondre, lui, à ce genre de questions-là. Je crois que...
Mais l'honorable Kiro a quand même cité certains objectifs qui n'ont pas été atteints, la lutte contre la corruption, et même l'honorable Lokondo a parlé d'un certain laxisme qui est observé.
Oui, je crois que le Premier ministre est en train de se battre, il n'est pas encore arrivé à sa fin, et retenez une chose, que ce n'est pas ce qui a été détruit pendant 30, plus de 40 ans qui sera construit dans 4 ans. Donc ça demandera du temps, petit à petit. Moi, je suppose, je suis optimiste, puisque je vois que le Premier ministre, lui, il a placé le jabon, et avec le temps, je crois que les résultats seront là, et les choses vont se retrouver comme il faut.
Professeur Maindo, pour les auditeurs, internautes qui suivent, vous avez dit tout à l'heure que vous compreniez la frustration de certains Congolais qui ont beaucoup d'attentes. Comment vous entrevoyez la suite en ce qui concerne les actions du gouvernement Matata?
Alors, je pense que on ne peut pas se faire trop d'illusions. Hein. C'est pas en quelques mois qui reste là pour la législature en cours que le gouvernement pourrait changer radicalement la donne. Mais ce qu'il faut espérer, ce que nous espérons, c'est que le gouvernement va quand même essayer de faire des efforts pour tenir un certain nombre de ses engagements, notamment en matière de promotion de la démocratie, de la sauvegarde de la démocratie pour préserver la stabilité et les l'intégrité territoriale de ce pays. Je pense notamment au calendrier électoral, au financement de ces processus et à tout ce qui va, à toute la logistique qui va avec.
Merci, professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Merci à l'honorable Crispin Ngoyi, député national et cadre du parti politique RUDEC, également communicateur de la majorité présidentielle. Merci aussi à l'honorable Patrick Thierry Kakwata qui est intervenu dans cette émission. Merci à l'honorable Grégoire Kirunsongo, député national de l'opposition élu de Béni et secrétaire général adjoint du RCD-KML, membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Merci à Guimaté et Kéline Kouté qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Alain Ngo était à la mise en onde, présentation et coordination. Alain Ngo Mouchige, au revoir.